On en parlait tout à l'heure dans le journal. Cela fait donc 2 mois aujourd'hui qu'Israël bloque toute aide humanitaire à Gaza. Les camions sont là, 3000 à la frontière selon les Nations Unies. Mais les autorités israéliennes leur interdisent l'accès au territoire palestinien. Le commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens parle d'un siège. Gaza est assiégé en plus d'être bombardé quotidiennement. Ce matin encore, un drone israélien a visé une tente dans laquelle étaient réunies des personnes en deuil, faisant 7 victimes. Bonjour Ronny Broman.
Bonjour.
Ancien président de Médecins sans frontières, vous êtes directeur d'études au sein du Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de MSF. Vous avez aussi écrit le livre « Guerres humanitaires, mensonges et intox » paru aux éditions Textuelles. La situation est insupportable selon des habitants de Gaza. L'OMS parle d'abomination. Aujourd'hui, en plus du blocus et des bombardements, Israël occupe aussi des parties de la bande de Gaza, à diviser le territoire. Ça ressemble à quoi le quotidien des Palestiniens? Où est-ce qu'ils vivent et comment?
Les mots manquent pour décrire le quotidien des Palestiniens parce que depuis le lendemain de l'attentat terroriste du 7 octobre, qui évidemment impliquait une riposte de la part d'Israël, c'était l'évidence même et personne ne conteste d'une certaine manière cette évidence-là. Mais la disproportion, la cruauté, voire la férocité avec laquelle cette punition collective a été abattue par les Israéliens sur la population de Gaza, ça laisse sans voix. Et depuis le nouveau blocus, car Gaza était déjà sous blocus, mais finalement l'aide humanitaire, sous la pression, avait fini par rentrer dans des quantités qui étaient un peu limites, mais tout de même qui avaient permis des choses, puis la trêve avait permis de constituer des stocks, avait été un véritable répit pour les Palestiniens pendant quelques semaines, pendant 7-8 semaines. Et aujourd'hui, c'est à nouveau l'abomination, l'enfer qui s'abat sur les Palestiniens. Toutes les réserves sont épuisées. On boit de l'eau croupie, de l'eau saumâtre, on ne peut plus s'éclairer parce que les centrales ne sont plus approvisionnées, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'aliments de base. Donc ce que les Gazaouis avaient réussi à stocker un peu, les commerçants ou les particuliers, tout ça arrive maintenant à épuisement. On est dans une situation de famine organisée dans le cadre d'une guerre qui n'a jamais mieux mérité son nom que guerre génocidaire aujourd'hui. Et comme pour rajouter à l'infamie, à l'horreur de cette situation, on voit que les pays occidentaux, en dépit de quelques formulations tout de même critiques qui ont tardé à être entendues, mais enfin qui sont là, comme par exemple la France appelant à arrêter le massacre, en dépit de ces déclarations-là, rien n'est fait concrètement pour que le massacre s'arrête. Par exemple, les livraisons d'armes continuent, l'intensité des bombardements, des tirs que Israël effectue sur Gaza n'a jamais été à ce point-là. Donc il faut bien ravitailler toutes ces munitions, ces drones, ces avions, ces hélicoptères, ces chars qui tirent des missiles, des obus.
Alors justement, sur ce point-là, comment est-ce que vous expliquez que ça dure encore? Parce que même si Israël empêche les journalistes d'entrer, on a des images, il y a eu quelques rares visites, on a des informations grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que ça dure depuis aussi longtemps, notamment les livraisons d'armes que vous mentionniez à l'instant?
Ça dure pour deux raisons. D'une part, parce que Israël entend saisir l'occasion qui lui est donnée pour se débarrasser définitivement de la question des Palestiniens de Gaza. Donc, et au passage d'ailleurs, entend accélérer et amplifier et intensifier sa politique de colonisation en Cisjordanie. Donc il y a quelque chose comme un effet d'aubaine, si vous voulez, le 7 octobre, utilisé par les Israéliens pour chasser le plus possible de Palestiniens. Et par ailleurs, le soutien indéfectible des États-Unis, le soutien qui était, disons, un peu mesuré sous Biden, quoique vraiment très peu, mais malgré tout, il y avait quand même un peu de retenue. Maintenant, sous Trump, il n'y en a absolument plus aucune, puisque c'est Trump qui leur a soufflé la solution de la déportation des Palestiniens de Gaza et l'installation d'une Côte d'Azur sur ce littoral. Et puis par ailleurs, en Europe, qui tolère des passages de composants d'armement. Certes, on n'envoie pas des obus, des vedettes militaires ou que sais-je, mais on laisse passer, surtout l'Allemagne, mais également d'autres pays. Je pense que la France joue un rôle, certes, qui n'est pas en flèche, mais enfin qui est quand même significatif. Donc des composants électroniques, des composants métalliques qui entrent dans la fabrication des missiles, des projectiles qui tuent tous les jours des Palestiniens. Donc
L'Europe, alors, a les moyens de faire quelque chose? Ou tout dépend des États-Unis, en fait?
non, je pense que l'Europe aurait les moyens de faire quelque chose, car l'Europe est le premier débouché commercial d'Israël. Et l'Europe a accordé à Israël, en tant que pays démocratique, allié, présent dans le bon camp, le fait bénéficier d'un accord d'association qui lui donne un statut de quasi-membre de l'Union européenne, avec des coopérations culturelles, universitaires, militaires, stratégiques, commerciales, etc. Donc il y a toutes sortes de moyens d'agir pour signifier à Israël qu'on ne veut pas se rendre complice de ce génocide, de ces atrocités que tout le monde voit et devant lesquelles personne ne fait rien. L'Europe qui se vante d'être attaché au droit international, au droit humanitaire, ne fait absolument rien, sinon envoyer quelques critiques qui ne changent absolument rien à la situation. Donc oui, à votre question, la réponse est simple. Oui, l'Europe aurait les moyens de faire quelque chose, à condition de le vouloir. Or, pour l'instant, l'Europe continue de se porter aux côtés d'Israël, en continuant d'ailleurs de qualifier ce pays de démocratie, alors que règne l'apartheid, la colonisation, la torture légale, plus une guerre génocidaire aujourd'hui, le blocus imposé aux journalistes. Est-ce qu'on connaît d'autres conflits dans lesquels, pendant 2 ans, aucun journaliste étranger n'a pu pénétrer, si ce n'est embedded avec l'armée israélienne, quelques journalistes qui ont pu rentrer visiter le camp de Jabalia, et avec interdiction de parler aux réfugiés palestiniens de ce camp, qui est le plus grand camp de réfugiés palestiniens de la région. On va visiter ce camp, mais on n'a pas le droit de parler aux gens qui composent ce camp, parce que l'armée israélienne l'interdit. Et malgré tout ça, le génocide, l'apartheid, le racisme, la férocité de cette offensive, Israël continue à bénéficier d'un statut de démocratie qui l'ancre du coup dans le camp occidental et lui permet de bénéficier de la mansuétude, de l'indulgence, voire du soutien d'un certain nombre de pays européens.
Le
C'est
gouvernement israélien,
absolument
d'ailleurs, a dit
infâme.
encore, là, aujourd'hui ou ces dernières heures, préparer une grande opération à Gaza, mobiliser pour cela des réservistes. Pourquoi faire? Quelle est la stratégie là maintenant?
Oh ben je crois que c'est d'une part, Israël est en train de réoccuper Gaza, donc il s'agit de prendre des positions, de découper la bande en plusieurs zones, en 3 ou 4 zones. Et par ailleurs, comme l'a dit élégamment, je crois, Smotrich, mais repris par d'autres, encourager le départ volontaire des Gazaouis. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire encourager le départ volontaire? Ça veut dire réduire les gens par la faim et le désespoir à un départ sans illusion, sans espoir de retour, parce que on n'a plus aucun avenir. Et les jeunes gens à Gaza, à part le fait de vouloir se venger de ceux qui les ont plongés dans le malheur le plus extrême, ils ont aussi envie de voir autre chose. Et donc, je pense que le plan Trump, qui a été saisi au vol par Netanyahou, est en train d'être mis en œuvre, c'est-à-dire vider Gaza de sa population, se livrer à une opération d'épuration, d'évacuation ethnique, où on va garder quelques dizaines de milliers de personnes, mais évacuer les autres vers l'Égypte, d'autres pays africains, d'autres pays dans le monde. Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais en tout cas, ils manifestent qu'ils en prennent le chemin.
Alors ce matin, une ONG, il nous reste assez peu de temps, mais je voudrais quand même vous poser une question sur ces accusations d'une ONG ce matin qui dit que l'un de ses bateaux humanitaires à destination de Gaza a été visé par un drone israélien au large de Malte dans les eaux internationales. Alors je précise que pour l'instant, Israël n'a pas commenté, mais est-ce que ça vous paraît plausible?
Ah, mais ça me paraît bien sûr plausible. Rappelez-vous la flottille Avis Marmara en 2010, c'est 2009 ou 2010, je ne suis plus tout à fait sûr, qui avait été attaqué par des commandos israéliens. Il y avait eu quand même 10 morts sur une flottille qui était intégralement pacifiste, qui entendait simplement appliquer une pression pour forcer le blocus et livrer des médicaments et des vivres à la population de Gaza. Une opération hautement symbolique, disons, de diplomatie humanitaire privée, mais qui n'avait rien d'agressif et qui a fini comme ça. Donc là, que cette flottille ait été attaquée par des drones israéliens de la façon la plus illégale, c'est un acte de piraterie pure et simple, mais ça me paraît, je ne sais pas si factuellement ça s'est passé comme ce qui est dit, mais ça me paraît tout à fait plausible, ça ne fait aucun doute.
Je vous remercie beaucoup, Ronnie Broman, d'avoir été en ligne avec nous, ancien président de Médecins sans frontières, directeur d'études au sein du Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de MSF. Je redonne aussi le titre de votre livre, Guerres humanitaires, mensonges et intox, paru aux éditions Textuelles. Merci beaucoup.